crois que ce que j'aime le plus dans la plongée sous-marine, dans l'exploration sous-marine, c'est justement ce qu'il y a derrière le mot exploration, c'est que c'est un univers très singulier. Sur Terre, c'est le seul où on peut soustraire d'une certaine manière à la gravité. Tous nos repères changent, on change littéralement de monde, et c'est un univers où on se confronte, on se heurte à des interrogations constamment. La première des interrogations, c'est le qu'y a-t-il au-delà ? Qu'y a-t-il un petit peu plus loin ? Le plongeur évolue un peu dans une bulle de visibilité, on voit à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 30 mètres, selon les mers où on va se trouver, mais on voit pas au-delà. C'est comme si on vivait en permanence dans un super congélateur à moins 20, moins 30, moins 40, et qu'en plus, on allait plonger non seulement une fois, mais deux fois, trois fois, quatre fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut dégeler le matériel, etc. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et en même temps, les images qu'on a ramenées, elles sont là pour toujours, parce que ça reste un monde de glace qui est aujourd'hui plus que jamais en voie de disparition. Et un jour, il n'y aura plus de banquise en été. On y va.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Guylain Bardou. Bonjour Guylain.
Bonjour.
Merci de prendre ce temps, je suis très content de pouvoir faire ça et c'est vrai que le timing tombe bien, les vacances de Noël approchent pour ceux qui nous écoutent, on est grosso modo en décembre quand on enregistre. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Guylain?
Oui bien sûr, alors bonjour à tous. Guylain Bardou, je dirige les expéditions Under the Pole que j'ai fondées avec Emmanuel, ma femme, en 2008. Under the Pole, c'est devenu un programme d'exploration sous-marin à visée scientifique, à visée de sensibilisation, de préservation du monde marin en général et puis des zones côtières où on plonge en particulier. Voilà, c'est un programme qui a 12-13 ans maintenant et qui nous passionne et qui nous mobilise intensément depuis cette époque-là, voilà, en quelques mots.
C'est incroyable. Comment ça commence du coup ? C'est quoi le premier élément déclencheur qui fait que... Déjà, comment est-ce que la passion peut-être de la plongée te vient ? Et puis ensuite, comment ce projet mûrit finalement ?
Oui, parce que c'est effectivement... la passion, c'est clairement un mot-clé. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça vient d'abord de la passion et surtout ça épuise toute l'énergie et les ressources indispensables. Alors la passion pour la plongée, moi je l'ai depuis que j'ai 15 ans, donc en 1995, un stage de plongée, un été, la découverte de cette activité, de ce sport, que j'avais déjà essayé. Mon tout premier baptême de plongée, je l'ai fait, je me rappelle, sur un stage multisport quand j'avais 7 ans, hein, donc ça remonte à loin. Et puis, c'était resté enfoui quelque part. Et voilà, le déclic, c'est vraiment 1995. Depuis, c'est devenu vraiment une passion dévorante auquel j'ai consacré ma vie totalement hein, depuis. C'est-à-dire que quand je suis au lycée, je travaille le samedi sur les marchés pour gagner de l'argent et que cet argent, je l'investis dans mes stages, dans mon matériel. Et puis année après année, je deviens voilà encadrant, tout ça. Et ça devient moteur, ça prend le dessus sur tout le reste dans ma vie, et ça va canaliser quelque part les choix que je vais pouvoir faire dans ma jeunesse et qui me conduira finalement à l'enseigne dans The Pole en 2008.
C'est quoi le matériel, quand tu parles de matériel, que tu vas avoir? Bon, toi, quand t'as 15, 18 ans, c'est quoi? C'est l'équipement de plongée, typiquement, ou c'est l'équipement accessoire comme la combi et les palmes? On est sur quoi le...
Alors, c'est tout le matériel de plongée. La plongée sous-marine, c'est vrai que c'est un sport ou un loisir qui est assez onéreux. Parce que si on peut le pratiquer à peu près n'importe où, hein, dans les lacs, dans les rivières, dans évidemment la mer, les océans, c'est une activité qui nécessite pas mal de matériel et du matériel assez cher. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Bah voilà, moi finalement en travaillant comme ça, à l'époque j'étais encore mineur, hein, j'étais tout gamin, mais bon bah ça me permettait de satisfaire un petit peu ma curiosité, ma soif, et puis bah petit à petit on s'achète un masque, ensuite des palmes, et puis la combinaison c'est plus cher, et puis le gilet, et puis voilà, peu importe, mais petit à petit et ça ne fait que confirmer aussi son engagement et sa passion, c'est-à-dire qu'on va travailler et on sait pourquoi. Le matin, le samedi, bah, je me levais à 5h du mat, je terminais après une très grosse journée de travail, je sortais pas la veille au soir pour être en forme. Bon, bah, c'est des compromis quand on est jeune, mais on sait pourquoi on les fait.
Et qu'est-ce qui te fascine le plus dans ce côté plongée? Est-ce que c'est le fait d'avoir un nouveau monde quand tu passes la surface de l'eau? Est-ce que c'est le côté exploratoire peut-être d'une zone moins explorée que la Terre? Qu'est-ce qui t'a suscité, tu vois, là, cet intérêt en particulier?
Je crois que ce que j'aime le plus dans la plongée sous-marine, dans l'exploration sous-marine, c'est justement ce qu'il y a derrière le mot exploration, c'est que c'est un univers très singulier, qui n'est pas le nôtre. Sur Terre, c'est le seul où on peut soustraire d'une certaine manière à la gravité. Donc, tous nos repères changent. On change littéralement de monde. Et c'est un univers où on se confronte, on se heurte à des interrogations constamment. La première des interrogations, c'est le qu'y a-t-il au-delà? Qu'y a-t-il un petit peu plus loin? Le plongeur évolue un peu dans une bulle de visibilité. On voit à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 30 mètres, selon les mers où on va se trouver. Mais on voit pas au-delà. Et finalement, le au-delà sur Terre, il est ridicule parce que on a l'habitude d'évoluer. On voit la colline, on voit la montagne. Parfois sur Terre, on voit plusieurs centaines de kilomètres, mais c'est pas le cas dans le milieu sous-marin. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant. On veut toujours aller voir au-delà. Et puis ça, c'est vrai aussi pour les animaux, les espèces. Essayer de comprendre quelles sont les règles qui régissent cet océan, ce monde à part entière, dont on perçoit qu'une toute petite partie visuellement, mais dont on comprend aussi qu'une fraction en fait des codes et des règles qui le régissaient. Et ça c'est quelque chose qui est magique, je trouve. C'est une profonde source d'inspiration, et il y en a pour longtemps. Il y en a pour longtemps. Donc ça, c'est un signe fort aussi pour.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents, à ce moment-là?
Mes parents, ils ont été complètement, ils m'ont encouragé depuis le début. Ils m'ont mis le pied à l'étrier, si je puis dire, en me faisant découvrir la plongée avec ce stage quand j'avais 15 ans. Et puis derrière, ils n'ont jamais été un frein. Voilà. Ils n'ont pas cherché à limiter cet engouement ou cette passion, alors que j'avais des conditions de pratique qui étaient pas forcément simples. Hein. À l'époque, j'y vais faire des Voltaire à côté de Genève où j'étais au lycée, et j'allais plonger dans le lac Léman, été comme hiver. L'hiver, c'est la nuit à 5 heures, c'est de l'eau à 6 degrés, c'est parfois de la neige, c'est dur. Mais en fait, c'était ma passion et ils le respectaient et ils m'ont toujours encouragé. Voilà.
Et tu passes un cap à un moment donné où tu deviens enseignant, enfin, tu vois, tu fais suffisamment de stages pour devenir même moniteur à un moment donné?
Ouais, c'est la suite logique. Hein. De toute façon, à 18 ans, j'ai passé ce qu'on appelle le niveau 4, c'est un diplôme d'encadrement. et puis à 20 ans, celui de moniteur, et puis d'autres par la suite. Évidemment, en fait, c'est la suite logique, mais c'est normal. C'est comme dans tous les sports, je pense. Il y a un moment donné, quand on a un niveau de pratique élevé, bah, on s'implique dans sa discipline, dans sa communauté, et puis on va encadrer les jeunes, on va enseigner. En fait, c'est propre à chaque sport, mais c'est la suite logique de la passion et de l'implication.
Et alors, tu vois, typiquement, j'ai reçu Frédéric Buil, je ne sais pas si tu vois qui c'est, champion
belge. Tout à fait, l'apnéiste.
Exactement, plus tôt cette année. C'est pas du tout le même sport, j'imagine, effectivement, quand tu descends avec de l'air. Mais tu vois, est-ce que la enfin, peut-être pour bien distinguer les deux, toi, ce qui t'intéresse, c'est aussi le côté peut-être séjour en bas, donc qui nécessite effectivement un peu plus de temps, parce que Frédéric est extrêmement doué et passe plusieurs minutes sous l'eau, mais avec ses propres poumons. Est-ce que le fait d'avoir un peu plus de temps grâce à des bouteilles, ça te donne une vision différente du sport ?
Certainement, c'est deux disciplines qui ont leurs points communs et puis leurs différences très marquées. Le premier point commun, bien sûr, c'est le milieu, l'océan par exemple, le milieu marin, le milieu aquatique. Et après, il y a des différences évidemment dans le matériel. Dans un cas de figure, on est libre, c'est une discipline qui est extrêmement épurée, l'apnée qui est remarquable pour cela. Par contre, le revers de la médaille, c'est une limitation dans la durée possible des pénétrations, hein, dans l'océan, hein. Et inversement, avec les scaphandres qu'on utilise, on est lourd. C'est vraiment la grosse contrainte. On est lourd, on est encombrant. Plutôt notre matériel l'est. Par contre, aujourd'hui, on a des durées d'immersion qui peuvent être extrêmement longues, de plusieurs heures. On peut atteindre des grandes profondeurs, facilement à plus de 100 mètres, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Voilà. On peut s'immerger littéralement dans une autre planète, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment les sensations qu'on éprouve parfois. Avec une relative facilité.
Et tu maintiens ça comme une activité à côté de tes études peut-être à ce moment-là ? Comment ça se passe quand tu as 20 ans ? Tu passes toute ton année là-dessus ou est-ce que tu as peut-être fait un parcours à côté ?
Non, c'est un à côté. Hein. Moi, quand je suis au lycée, je suis lycéen. Et puis après, je suis allé faire des études, des études d'ingénieur mécanicien et énergéticien. Et pendant toute cette période de ma vie, la plongée est une passion que je développe constamment, mais ça n'est pas mon métier, et ça ne le deviendra que par la suite, avec les expéditions Under the Pole, où évidemment la plongée sous-marine est devenue au cœur même de notre projet.
Alors, tu dis beaucoup de nous, qu'est-ce qui vient en premier ? C'est l'idée puis la femme, est-ce que c'est la femme puis l'idée ou qu'est-ce qui est, comment ça commence ?
Alors c'est Emmanuel hein, qui arrive en premier. Alors notre rencontre avec Emmanuel, elle remonte à 2005. 2005, moi je suis en master et donc je dois partir en Allemagne dans le cadre de l'Erasmus. Et l'été, je suis moniteur de plongée au centre de plongée des Glénans en Bretagne. Et je rencontre Emmanuelle qui, elle, vient du milieu nautique, elle est marin, skipper, monitrice de voile, chef de centre, tout ça. Et elle rentre surtout d'une expédition d'un an avec Jean-Louis Etienne, une expédition qui avait lieu à Clipperton. Et elle vient se former à la plongée sous-marine. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. Derrière, on s'est plus quitté, voilà. Ça a été le début de notre vie commune, de notre aventure de vie. Et on a travaillé pendant les deux années qu'on suivit avec Jean-Louis Etienne. Parmi d'autres choses, Emmanuel est retourné naviguer dans le Grand Nord, au Spitzberg, en Norvège. On s'est retrouvé avec Jean-Louis Etienne, et puis après ça, c'était début 2008. On avait écrit Under the Pole, la toute première mission. Et moi, il me restait un an d'études à terminer. mon master, que j'avais interrompu pour aller travailler avec Jean-Louis Tienne, et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé. Donc, bon, je terminais mes études, et en parallèle, on travaillait quand même principalement sur Under the Pole déjà à cette époque-là.
Est-ce qu'on peut faire une parenthèse rapide? Ça veut dire quoi, travailler avec Jean-Louis Tienne? Tu nous ferais une semaine type ou une année type? Ça ressemble à quoi?
Avec Jean-Louis Tienne? Alors, c'est divers, ça, tout dépend déjà du poste qu'on occupe, mais donc je vais parler de mon poste. Moi, j'étais assistant de Jean-Louis Tienne, donc je travaillais à Paris, au bureau, au siège, là où les expéditions s'organisaient. Donc c'était une petite équipe, hein, puisqu'on était quatre à l'époque au bureau. Il y avait Jean-Louis Tienne, il y avait sa femme Elsa, et puis il y avait une secrétaire, et puis moi. Bon, moi, je m'occupais de l'assister, on va dire, dans tout ce qui relevait de la logistique, des partenariats techniques, voilà, de l'organisation à travers certaines facettes que je prenais à mon compte. C'est des périodes qui sont extrêmement riches. C'est extraordinaire de travailler avec Jean-Louis Tienne quand on a 25 ans, 26 ans, 27 ans. C'est un grand homme que je connaissais, que j'observais depuis que j'étais tout gamin, parce que pour moi, Jean-Louis Etienne, mes plus vieux souvenirs, je m'en rappelle, j'avais 8 ans, 9 ans, c'est en Antarctica, le bateau Antarctica qu'il a construit à l'époque pour aller faire ses missions en Antarctique. Et puis, voilà, toute cette décennie des années 90, où on suivait par épisode sur Thalassa, ou ici et là, dans les médias, enfin... C'est quelqu'un que je suivais. Il est venu dans mon lycée une fois donner une conférence. Ça a été marquant pour moi. Et en même temps, c'était un univers qui me paraissait inabordable, le milieu des expéditions. Il y avait un côté mythique, un petit peu inabordable, inaccessible. Finalement, je me retrouve là, à ses côtés. Donc, j'ai énormément appris. J'ai appris la technique, le travail, comment on monte une expédition, comment on gère une expédition, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi l'envers du décor, c'est quoi les contraintes. Et c'est dans tous les domaines, c'est le matériel, c'est les équipes, c'est la logistique, c'est la réglementation, c'est la diplomatie. Et donc, on s'abreuve. Je garderai pour toujours un immense respect pour cette équipe, pour Jean-Louis Etienne et sa femme Elsa. Qui à l'époque m'ont beaucoup appris tant sur le domaine technique que dans la chaleur humaine, des valeurs associées, et ça c'est au moins aussi important.
Et donc ouais, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, qui se posent encore la question, Jean-Louis Etienne, ceux qui ne le connaissent pas, est un explorateur français. Il doit avoir un peu plus de 70 ans maintenant, je pense, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Fait partie de ceux qui ont mis en place certains records au niveau des expéditions dans le froid, notamment sur le pôle Nord et la traversée de l'Antarctique. Voilà, bon, ça, ceux qui ne savaient pas. Génial, ça, du coup. Donc, tu fais 2 ans avec lui, et donc, en fait, tu nourris finalement ton projet un peu en travaillant tes réflexes logistiques, peut-être, sur ce que tu as fait pour Jean-Louis Tienne, c'est ça?
Ouais, c'est sûr, en partie, je me nourris de l'ensemble de ce que je peux percevoir, des apprentissages que j'ai pu faire. En fait, monter un projet, c'est un truc qui me botte depuis toujours. J'en ai monté plein avant. C'est-à-dire que je m'inventais des histoires, des micro-projets. Alors, ça commence par aller plonger sous la glace d'un lac en altitude dans les Alpes, mais... où on accède en pulka, en ski de rando, et on monte son matériel petit à petit avec les copains. Mais j'ai monté des projets comme ça, qui ne se sont au final d'ailleurs pas réalisés, mais je me rappelle, j'ai gardé des notes de l'époque où, bon bah voilà, alors il faut inviter France 3, et pour le matos on va prendre ça et ça, on allait faire des repérages. Mais en fait c'est une époque qui est géniale, parce que... en fait, on s'essaye un peu à tout, il n'y a pas de règles, on y va à tâtons, en fait. Jean-Louis Etienne, derrière, d'abord, toute cette organisation se structure autour d'un méga projet. L'expédition de Jean-Louis Etienne était une grosse expédition à l'époque. On devait traverser l'océan Arctique avec un dirigeable pour en mesurer l'épaisseur. C'était très très gros, très ambitieux. finalement, ça n'a pas eu lieu. Ça s'est avorté quelques semaines du départ suite à un crash de ce dirigeable. Mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est le chemin, hein, on dit souvent, et c'est particulièrement vrai. Et moi, bah, dans mon cheminement, avec Jean-Louis Etienne, on est parti en 2008 au Pôle Nord. C'était en 2007, pardon. Pour une campagne scientifique sur laquelle il y avait un programme de plongée dont j'étais responsable. Et moi, ça a été ma rencontre avec les glaces polaires et ma rencontre avec la banquise et son univers sous-marin. Et c'est quelque part comme ça qu'est né Under the Pole. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce que moi, j'avais vu, c'était qu'une toute petite fraction du potentiel. Que les images qu'on ramenait, c'était qu'une toute petite fraction de ce que j'avais vu. Et j'ai eu envie d'organiser une grande expédition de plongée pour vraiment aller explorer ce milieu et le documenter le plus largement, le plus représentativement possible, puisque c'est un univers qui disparaît. Voilà, la banquise, l'Arctique fond drastiquement vite, et la banquise, c'est littéralement un milieu en voie de disparition à court terme. Et je voulais la capter dans sa diversité. Elle reviendra toujours, hein, l'hiver. Il y aura toujours de la banquise l'hiver, hein, mais ce sera jamais la même que la glace pluriannuelle, c'est-à-dire celle qui ne fond pas d'un hiver sur l'autre, mais au contraire qui se renforce, qui s'épaissit, et qui présente du coup des volumes, des dimensions, des sculptures qui en font un monde de glace qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on ne voit jamais. Et c'est tout ça qu'on voulait montrer.
Et alors, c'est quoi la première que tu dessines? Tu disais à ce moment-là, en 2008, tu avais déjà écrit grosso modo le scénario de la première expédition Under the Pole. C'est quoi la première idée qui vous vient du coup? C'est quoi la curiosité finalement? Elle commence comment?
Elle commence sur une idée, et cette idée, c'est celle que je viens de présenter là. Aller au cœur de l'océan glacial arctique, dans le Grand Nord, sur cette banquise de l'océan arctique qui est la plus belle, la plus inspirante, la plus magistrale, et faire un travail de mémoire quelque part, un travail documentaire pour raconter cet univers, mais avec un regard nouveau, avec mon regard de passionné de plongée sous-marine. Et donc on monte le projet, on commence par écrire l'idée. C'est comme ça que naissent les expéditions, c'est comme ça que naît n'importe quel projet. Et à un moment donné, on va l'écrire, on va se demander par où on va commencer, comment on va le raconter, qu'est-ce qu'on va faire. Et pour le faire, pour bien le faire, en fait, il y a un gros travail de documentation. On commence par étudier ce qui a déjà été fait, par exemple. Quel est l'état de l'art en la matière, quelles expéditions, quelles conditions de réalisation, quel matériel, quelles équipes, quelle logistique. Et puis de fil en aiguille, on va resserrer l'idée, on va structurer notre projet, on va laisser tomber certaines voies, on va en ouvrir d'autres, et petit à petit, on a un projet qui commence à tenir la route. Et ce travail d'écriture, en fait, il se fait en parallèle d'une étude de faisabilité, et on fait avancer les deux. Et c'est comme ça que, après à peu près 6 mois de réflexion, en janvier 2008, on avait un projet qui tenait la route et il s'agissait maintenant de le monter pour de bon et donc de trouver des financements.
Comment tu commences du coup sur cette partie-là typiquement? Est-ce que tu prévois une durée d'expédition? Est-ce que tu prévois un cahier des charges finalement assez complet? Qui vont être peut-être les personnes que tu vas solliciter justement pour cette partie financement?
Alors, à ce niveau-là, le cahier des charges, il est extrêmement précis, parce qu'il fait suite à l'étude de faisabilité, c'est-à-dire que l'idée, le projet qu'on a écrit, elle se base sur une faisabilité. Et ça n'en bougera plus beaucoup à partir de là. Derrière, faut mettre, pour s'adresser à des partenaires, faut mettre les formes, c'est-à-dire que il s'agit de trouver des partenaires financiers, des partenaires techniques, donc on les appelle, on les contacte, on prospecte, mais faut leur présenter un dossier, donc on rédige un dossier. Un dossier, c'est une somme de pages qui présente j'aime à dire le qui, que, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Hein, c'est vraiment ça, c'est répondre un peu à toutes les questions qu'on peut se poser. C'est un travail qui est long, parce que chaque mot compte, chaque phrase compte, est pesée. Donc ça prend du temps, et puis on écrit une V1, une V2, une V3, et ainsi de suite. Et puis en fait, ce dossier de présentation, il évolue tous les mois, parce qu'on s'améliore, on s'adapte aussi au retour d'expérience qu'on peut avoir, aux réponses qu'on va pouvoir écouter. Mais les bases d'un projet, c'est vraiment ça, c'est un projet écrit basé sur une étude de faisabilité, et puis derrière, le montage. Et le montage, c'est le financement, c'est la technique, c'est le calendrier, c'est la logistique, c'est l'équipe, l'entraînement, et tout ça, ça s'imbrique, ça se suit. Et puis, les mois passent, parfois les années passent, et à un moment donné, on est prêt.
Comment tu... Pardon pour la question peut-être un peu naïve, mais comment tu fais une étude de faisabilité sur quelque chose dont vous allez parfois être les premiers à faire ?
Alors, c'est une bonne question, et j'aime en fait cette question, parce que c'est exactement ça, c'est une question qui est essentielle et qui caractérise l'exploration. Effectivement, quand on connaît tout, il suffit de reprendre la biblio, la connaissance existante, les livres, les récits, et de s'en inspirer, de les copier, d'aller chercher les réponses aux questions qu'on se pose. Mais par définition, quand on met un pas dans l'inconnu, quand on s'aventure un peu en terrain incognita, il y a des questions auxquelles on va pas pouvoir répondre. Et la clé, à mon sens, de la réussite d'un programme, quel qu'il soit, pas du tout uniquement dans notre domaine de l'exploration sous-marine, mais d'une manière générale, plus un projet va être engagé, plus un projet va être audacieux, plus cette phase de connaissance, cette phase de préparation va devoir être méticuleuse, de manière à pouvoir se préparer à tout ce qu'on pouvait anticiper. Chaque question qui se pose doit trouver une réponse. Et si elle n'en trouve pas, là, on rentre vraiment dans le terrain de l'exploration. Mais il faut réduire la part de l'inconnu à son strict minimum. Pourquoi ? Parce que une fois sur le terrain, une fois dans le dur, et c'est d'autant plus vrai, encore une fois, qu'un programme est difficile et engagé, il faut pouvoir se concentrer au maximum justement sur cette phase inconnue, sur cette partie qui va mobiliser un peu toute notre énergie, tous nos sens, et ne pas la diluer sur des problématiques qui auraient dû être anticipées. Ça, c'est essentiel, c'est fondamental, et ça va faire la différence entre les projets qui se réaliseront, ceux qui se réaliseront pas, et ceux sur le terrain qui prendront la bonne orientation.
Souvent, tu mets quoi, tu mets une note, tu mets un pourcentage de réussite, c'est quoi l'écart entre ce que tu sais faisable et ce que tu gardes, entre guillemets, un peu flouté, zone grise, quoi?
Non, je dirais c'est subjectif, en fait. Il n'y a pas franchement de règles. Tout n'est pas quantifiable. Mais, par exemple, je dis souvent que Under the Pole 1, c'était une expédition qui était extrême, à tout point de vue. Ce qu'on a fait à l'époque, on était sur le fil du rasoir d'un bout à l'autre. Mais à chaque fois qu'on a fait face à une difficulté, la balance a pesé du bon côté. Ça a toujours basculé du bon côté. Pourquoi ? Parce que on s'était posé toutes les questions, on s'était mis en situation, on s'était entraîné, et en fait, dans cette phase de préparation, d'entraînement, on va se confronter à des difficultés sur le choix du matériel, sur le choix des combinaisons, sur le choix des tentes, sur les petits détails qui font que ça passe plus ou moins facilement, mais que ça passe. Même chose pour les pièces de rechange, l'entraînement, la préparation psychologique, la préparation mentale de l'équipe. C'est évident que si on s'était pas entraîné, on ne se serait pas posé toutes ces questions, et probablement, on aurait eu des problèmes beaucoup plus sérieux encore, qui auraient peut-être menacé la bonne fin de l'expédition, au final.
Et alors du coup, je pour bien comprendre, sur 12 ans d'existence, ça représente combien d'expéditions aujourd'hui ?
Alors, Under the Pole, on est aujourd'hui sur la fin de la troisième expédition. C'est des expéditions qu'on appelle aujourd'hui Under the Pole 1, Under the Pole 2, Under the Pole 3, qui ont eu des durées variables. Under the Pole 1, donc ça a été finalement seulement 45 jours de mission, mais pour un programme qui au total nous aura sollicité totalement pendant presque 4 ans, 3 ans de préparation. Et puis Under the Pole 2, bah, ça a été 2 ans de terrain au Groenland avec un hivernage dans les glaces. Et Under the Pole 3, c'était 4 ans de mission. Avec 4 grandes parties. En fait, c'est des macro-expéditions. Bon, après, on parle plus de programme, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que c'est, en fait, un programme Under the Pole. Under the Pole 3, par exemple, bah, c'est une somme de 4 expéditions qui chacune, peuvent durer plusieurs années. Ça dépend desquelles. Voilà, alors la fin d'Under the Pole 3 est un peu chamboulée à cause du Covid, évidemment, on devait partir en Antarctique, ça a été annulé, on a monté une mission de remplacement, on retourne en Polynésie française pendant 2 mois, là, au début de l'année 2021, et ça viendra clôturer ces 4 ans de mission, et gentiment, on va glisser vers la suite, Under the Pole 4, qui est un programme encore plus long, qui va durer plusieurs années et qui va nous occuper un peu sur tous les océans.
Et quand tu dis que tu as un projet comme ça, est-ce que vous, au-delà évidemment de l'aventure humaine que ça représente, et ça m'intéresse d'en avoir le détail également, est-ce que vous vous êtes fixé des livrables, tu vois ? Est-ce qu'il y a un objectif de tant de données scientifiques, tant d'images, de films, de choses à raconter derrière ? Est-ce qu'il y a un objectif de livrable, si on peut appeler ça comme ça ?
Oui, à chaque expédition, bien sûr, pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est des programmes qui sont complètement professionnels, qui se basent sur une économie, comme tous les projets qui nécessitent de l'argent, et que cette économie nous oblige à rendre des comptes. On a des partenaires, on a des sponsors qui nous accompagnent, qui nous font confiance, qui nous suivent, mais évidemment, derrière, on a des engagements. Ça peut être le travail de sensibilisation, ça peut être le travail de médiatisation, ça peut être le travail scientifique. Et ça évolue au fil du temps. Notre ambition, notre action, elle a évolué, en fait, chaque année, à chaque projet. Aujourd'hui, notre action, elle est d'abord scientifique. C'est l'idée de collaboration avec des instituts de recherche pour travailler sur des zones sur lesquelles l'action du plongeur, l'action d'équipe spécialisée dans des programmes de plongée ambitieux vont permettre une innovation et améliorer la connaissance, améliorer la compréhension d'un environnement, d'un écosystème, essayer de quantifier l'impact de l'homme, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit l'impact local à travers la pêche ou le tourisme. Il peut y avoir différentes approches, mais voilà, vraiment la première pierre, elle est scientifique. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de la science ? La science, elle n'a de sens que si elle est diffusée, si elle est communiquée. Et c'est d'autant plus essentiel, je pense, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que la parole scientifique se retrouve remise en question. On en entend un petit peu tous les jours parler. Et je crois qu'en fait, c'est exactement l'inverse. On doit s'appuyer sur la connaissance scientifique. On doit la partager, on doit faire preuve de pédagogie, on doit expliquer. Et c'est une des actions qu'on se fixe avec Under the Pole aujourd'hui. On s'appuie sur la science qui est menée sur le terrain, et ensuite on la redistribue dans le milieu scolaire, on a des programmes éducatifs, auprès de la société civile, en partageant, communiquant, faisant des films, des conférences, des festivals, ce genre de choses, des rencontres. Et puis un travail de plaidoyer qu'on mène en collaboration avec d'autres associations ou ONG, j'en citerai une, en particulier la plateforme Océan Climat, qui regroupe justement des acteurs du monde scientifique, de la sensibilisation ou de la communication, pour partager la connaissance scientifique et rédiger des recommandations à destination des décideurs.
Et ça ressemble à quoi typiquement une journée type quand tu m'as dit 45 jours sur place qu'est-ce que tu fais entre le lever et le coucher?
Alors au pôle Nord, c'est très particulier. En fait, les journées types, il y en a plein. Ça va dépendre de où on se trouve. Là, par exemple, je vous parle, je suis depuis mon bureau en Bretagne à Concarneau, et ça ressemble à un travail de bureau, comme tous les travails de bureau, hein, téléphone, ordinateur. Sur la banquise, non, c'est très différent, c'est très original. Une journée type, ça commence au réveil, quand le réveil sonne. On est totalement enfoui au plus profond de son sac de couchage, de ces sacs de couchage, parce qu'on en avait deux l'un sur l'autre, qui nous permettent de résister à des températures de moins 40, moins 45 degrés à l'intérieur de la tente, hein, au plus froid. Et donc, il y a de la glace qui s'est formée sur le sac de couchage. Parfois, le zip est à moitié bloqué, il faut qu'on le dégèle avec les doigts avant de pouvoir l'ouvrir. Et puis, le corps va progressivement se réchauffer. La première chose, c'est que c'est difficile de sortir du sac de couchage, très difficile, parce que là, on est replongé directement dans le grand froid, et quand on arrive sur la banquise, les premiers temps, c'est littéralement l'enfer. On n'est pas fait pour vivre dans ces environnements, c'est très très difficile, mais on va s'adapter, on va s'acclimater petit à petit, et puis on va prendre son petit déjeuner dans des ziplocs qui sont remplis de muesli avec du chocolat ou de la poudre d'amande, ce genre de choses, et puis on met de l'eau chaude, on va se prendre un thé, et puis on va sortir de la tente et on va ranger le camp. Ça prend en général 2 heures, il faut tout brosser pour enlever la glace, le givre, etc. Et puis on va prendre nos poulkas, ces traîneaux qu'on tire, on va chausser nos skis, on avance. Ça, c'est une journée, par exemple, pendant laquelle on va progresser sur la banquise. Et le soir, bah, on va arriver, on va remonter le camp et se faire chauffer de l'eau et remanger un plat chaud directement dans un zip. Et puis, se reposer et recommencer le lendemain. Et puis, il y a d'autres journées, c'était la plongée. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de progression les jours de plongée. On se lève et on se prépare. On se prépare, donc on va faire un trou dans la banquise, on va préparer le matériel. Alors on était 8 sur la banquise, donc on se partage les tâches. Et puis bah, au final, 45 jours de banquise et on a fait 52 plongées. Hein, c'est énorme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un monde entre des plongées qu'on va mener depuis un environnement entre guillemets sociabilisé, c'est-à-dire avec des points chauds, avec des abris, avec des endroits où on va pouvoir se préparer ou se reposer confortablement, et leur réalisation dans un mode de camping polaire où la chaleur n'existe pas. C'est comme si on vivait en permanence dans un super congélateur à moins 20, moins 30, moins 40. Et qu'en plus, on allait plonger non seulement une fois, mais deux fois, trois fois, quatre fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut dégeler le matériel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est vraiment incroyable. Moi, j'en suis nostalgique à chaque fois que j'y pense. C'est quelque chose qu'on fait une fois, qu'on ne refait pas deux fois. Et en même temps, les images qu'on a ramenées, elles sont là pour toujours, parce que ça reste un monde de glace qui a largement déjà fondu depuis qu'on y est allé, mais qui est aujourd'hui plus que jamais en voie de disparition. Et un jour, il n'y aura plus de banquise en été. On y va.
Ça ressemble à quoi Enfin, tu me parlais d'un trou dans la banquise. J'imagine qu'il y a différentes épaisseurs en fonction de là où vous vous situez. Il va faire jusqu'à quelle taille, par exemple, ce trou dans la banquise que vous faites?
Oh, c'est 1 mètre carré. En gros, un trou dans la banquise, c'est une fenêtre qu'on va ouvrir avec des outils qu'on appelle une tarière. C'est une espèce de gros forêt. Et puis une scie à glace, une espèce de gros couteau, une grosse scie. Et ça nous permet de faire une première ligne droite, une deuxième, une troisième, une quatrième, et de pousser ce bloc de glace sous la banquise, et ça ouvre une fenêtre. Alors parfois on fait des trous plus grands, parfois on utilise des tronçonneuses, parfois il faut plusieurs jours pour l'ouvrir. Ça nous est arrivé de mettre 3 jours pour ouvrir un trou, c'était au pôle Nord. Mais basiquement, c'est assez simple en fait. Hein. Il s'agit de casser la glace.
Non, mais ma question est plus de savoir est-ce que la banquise elle fait 10 cm d'épaisseur, est-ce que vous faites des trous jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, quoi, c'est quoi le...
Il y a toutes les épaisseurs. Alors la banquise, je dirais en général, l'épaisseur moyenne, c'est plus de l'ordre 40, 50, 60 cm. Hein. Ça, c'est... Parce que nous, ce qu'on va viser, c'est des banquises pas trop épaisses aussi. On va souvent faire des trous là où elle est moins épaisse, donc plus facile à travailler, à proximité de sites plus majestueux. Donc typiquement, une voie d'eau qui a regelé à côté d'une montagne de glace, une crête de compression. Ça, c'était vraiment ce qu'on recherchait. Mais après, je crois que le trou le plus épais que j'ai jamais fait, c'était un trou dans une glace qui faisait 1,70 m. Et c'était au pôle Nord avec Jean-Louis Etienne, justement. Et on avait mis 3 jours, c'était difficile. Mais on devait faire le trou à cet endroit-là, en plein milieu d'une grosse plaque, pour des raisons scientifiques.
Ah la vache. Est-ce que, enfin, c'est quoi le ressenti que t'as en premier lieu quand tu vas dans l'eau après? Parce que déjà que sortir de salle de couchage, c'est quelque chose, tu viens de me dire. Après, il faut quand même se mettre dans l'eau. Alors, bon, par définition, je pense que l'eau, elle est plus chaude finalement que l'air environnant, c'est ça?
Oui, mais d'un autre côté, l'eau étant extrêmement conducteur de la chaleur, on se refroidit très très vite. L'eau. Au contact de la banquise, on va dire qu'elle est à peu près à moins 1,8. En fait, moins 1,8, c'est la température à laquelle l'eau de mer, salée, va commencer à geler. Voilà, donc c'est une température qui est négative, donc effectivement, c'est très froid. Maintenant, les premières sensations, elles sont... D'abord, physiquement, on va ressentir un froid très intense sur le visage, les lèvres, mais au bout de quelques minutes, elles vont être un peu comme anesthésiées et ça dérange plus. Là, on est dans un état où il y a beaucoup de curiosité, voire d'excitation dans ces premières minutes, parce que, en fait, en passant la banquise, en rentrant dans cet océan, on va découvrir. Le premier regard, il est magique. En général, on fait un 360 sur soi-même pour voir un peu l'environnement, à quoi ça va ressembler autour de nous. Et puis derrière, on va partir dans une direction pour aller l'explorer. J'ai perdu mon fil.
Non, ma question c'était, c'est quoi le ressenti quand tu descends dans l'eau et donc tu viens me dire, tu fais un tour, tu choisis une zone que tu vas explorer du coup.
Et puis au bout de quelques minutes, on va avoir donc cette anesthésie des lèvres, et puis progressivement, on va être bien, on va retrouver ses sensations, son aisance, son aquaticité, et puis au bout de quelques dizaines de minutes, on va commencer à avoir froid. Et de plus en plus froid, ça va venir nous engourdir les pieds, les mains, et ensuite le corps. Ça, c'est pas agréable, c'est franchement douloureux, souvent, mais c'était les conditions de réalisation. En général, on plongeait entre 40 minutes et une heure hein, au pôle. Après, les autres expéditions qu'on a menées par la suite, hein, parce que finalement, derrière, pendant 10 ans, on a fait du polaire en Arctique, et on a multiplié les plongées, beaucoup, beaucoup, on a expérimenté des techniques, du matériel, on a développé notre propre matériel, et les conditions du coup de réalisation étaient différentes. Aujourd'hui, par exemple, sur les projets polaires qu'on va mener, on utilise des chauffages électriques qui sont performants. Il y a encore quelques années, il n'y avait pas ce niveau de qualité qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, plonger longtemps dans ces environnements froids, en totale autonomie, c'est pas un problème. Il y a des techniques, il y a du matériel. Je dirais pas que c'est facile, mais c'est faisable sans aucune grande difficulté, on va dire. Et c'est marrant, parce qu'en fait, il y a 15 ans, c'était pas du tout la même chose. En fait, il y a eu une évolution assez rapide des moyens et des techniques ces dernières années.
Et là, tu m'as parlé de la pulka, la fameuse que vous tirez avec le matériel. Ça veut dire que vous baladez, en plus de votre matériel, on va dire, de vie quotidienne, le matériel également de plongée sur des pulkas?
Le ski pulka, c'est vraiment le mode d'évolution autonome classique des expéditions polaires. Ça a été largement initié, développé par les Norvégiens. Et effectivement, hein, c'est la solution qui s'impose. On chausse des skis, on a une poulka, on va dire que ça ressemble à une grande bassine, une grande baignoire qu'on traîne derrière soi. Alors il y en a qui prennent des kayaks, ça dépend, hein, mais globalement c'est une grande baignoire en carbone et en fibre de verre qu'on remplit de matériel. Voilà, tout simplement. Et ça glisse, c'est sur deux patins, et ça glisse sur la banquise. C'est efficace, c'est simple, et ça permet aussi de franchir des voies d'eau. Voilà. Quand on n'est pas motorisé, quand on n'est pas sur des modes de traîneau à chien, par exemple, c'est vraiment le moyen, le matériel qui est privilégié par les explorateurs polaires, que ce soit au nord ou au sud. Hein.
Mais ce qui veut dire aussi que vous faites très peu de déplacements, parce que je pense à ça. Tu sais, Mike Horn, il a un bateau qu'on appelle Pangaea, dont on parle quand même assez souvent, qui est souvent stationné à Brest avec Bernard Stamm. En tout cas, qu'il l'a été pendant un certain temps cette année. Est-ce que vous aussi, il y a une approche, j'imagine, d'abord par la mer, puis ensuite, cette partie qui se fait pour aller sur les zones en question que vous cherchez à explorer?
Oui. Et c'est apparu dès notre deuxième expédition. Quand on est rentré dans notre pôle 1 avec Emmanuel, dans les mois qui ont suivi, on a réfléchi et on a écrit Under the Pole 2. Under the Pole 2, c'était vraiment la suite logique. C'est-à-dire qu'après avoir exploré le cœur de l'océan Arctique, cette banquise majestueuse qui est en plein milieu d'un océan à plusieurs centaines de kilomètres des côtes, on s'est dit, bon, bah, sur les dernières terres de la planète, c'est-à-dire là où la Terre va rencontrer l'océan, le plus au nord du monde, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Quelle vie? Quelle saisonnalité? Comment tout ça va évoluer au fil de l'année? Et puis, un petit peu plus au sud, comment ça va être dans ces fjords où sont gerbés des icebergs parmi les plus gros glaciers de la planète? Et puis, un petit peu plus au sud encore, dans des baies qui, elles, seront davantage un abrité. Et comment, en fait, ce milieu polaire va évoluer au fil du temps, au fil des saisons, entre l'extrême nord et puis le cercle polaire. Et c'est comme ça qu'est né Under the Pole 2. Maintenant, oui, on en est venu à avoir évidemment un bateau, c'est le Wye qu'on a acquis en 2013 pour cette deuxième expédition Under the Pole, parce que on est fou amoureux des régions polaires. C'est vraiment des milieux qu'on aime peut-être par-dessus tout, par-dessus toutes les régions, parce qu'elles sont profondément inspirantes et qu'il y a tant à y découvrir. Mais on reste aussi des plongeurs, et les plongeurs ont souvent besoin d'un bateau pour évoluer, pour travailler, parce que bah on est en mer et puis on utilise du matériel lourd. Donc le bateau, c'était la suite logique, et pour nous, évidemment, il a pris la forme d'un voilier avec le Wye.
Et donc, ça veut dire que finalement, Emmanuel, qui est plutôt initialement voileuse, t'a un peu donné cette passion-là, et inversement, toi, t'as complètement enseigné à Emmanuel. Je sais pas si t'étais son moniteur à l'époque où vous êtes rencontrés, ou c'était...
Ouais. Pas seulement, parce qu'elle a passé plusieurs niveaux, donc elle a eu d'autres moniteurs, mais j'ai été un de ses moniteurs, ouais.
Ouais, du coup... Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la notion de... On parle effectivement de Under the Pole, le pôle Nord... bon, je suis peut-être pas assez bon scientifique, n'est pas rattaché, il n'y a pas une partie rigide dessous, voilà. Alors que c'est le cas de l'Antarctique. Et donc, pour l'instant, les expéditions sont exclusivement sur le pôle Nord, ou est-ce qu'il y a aussi cette partie Antarctique qui va être considérée?
Alors, géographiquement, pendant 10 ans, on a travaillé en Arctique, Groenland, Canada, Alaska. Et puis, on devait aller en Antarctique. C'était la fin d'Under the Pole 3, et on devrait en ce moment même être en stand-by départ pour partir en péninsule antarctique. Tout ça s'est tombé à l'eau avec le Covid. Je crois que toutes les expéditions en Antarctique cette année ont été annulées, en tout cas toutes celles à ma connaissance. Et non, c'est dommage, c'est un regret, c'est une difficulté. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent parfois. C'est aussi ça, hein, la vie des projets, la vie des expéditions. Ce sera pour une autre fois, c'est pas grave, mais c'était effectivement l'objectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a passé aussi ces 2-3 dernières années dans le Pacifique, en Polynésie française, parce que on était sur la route de l'Antarctique, mais une route qui est longue, et donc dans le montage du projet, on avait d'emblée décidé de s'y arrêter et finalement d'y monter un programme. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Under the Pole a sorti son premier pied des régions polaires, hein, c'est pour aller dans le Pacifique et sous les tropiques de la Polynésie.
Et donc, toujours dans la lycée de d'approche scientifique, tu disais, c'est ça, il y a toujours cette grosse brique finalement dans vos expéditions qui commence par être, il y a une raison scientifique aussi de son existence, quoi.
Clairement, ça a évolué au fil des missions. Under the Pole 1, c'était pas une mission scientifique, c'était une mission documentaire, mais sur lequel on a toujours eu, à chacune de nos missions, il y a toujours eu une brique scientifique. Sur Under the Pole 1, on avait des mesures d'épaisseur de neige, de glace, pour un chercheur, Christian Rass, qui travaillait au Canada, un glaciologue. Et puis, toujours, à chaque mission, des programmes de physio de la plongée, physio problème de physio, de la physiologie en milieu extrême, voilà. Et Under the Pole 2, on a cranté, on était sur des plus gros programmes, des plus grosses manips scientifiques, plus longs, avec par exemple, pendant 5 mois de prise en glace, on a autopsié la banquise environnante, depuis l'embâcle jusqu'à la débâcle, en s'intéressant aux paramètres physiques, chimiques, biologiques, voilà, comment ça a évolué au fil de la saison, avec l'arrivée de la nuit polaire, puis surtout le rallongement des jours, le retour du soleil, et puis jusqu'à la débâcle. Et avec Under the Pole 3, on voulait aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on voulait carrément que le programme scientifique soit à la base de la mission. Et ça a pris vraiment toute son ampleur avec le programme Deep Hope. Deep Hope, c'est un programme qu'on a mené en Polynésie française avec une scientifique, Laetitia Edouin, qui est une chercheuse du CNRS, basée au CRIOB, qui est le laboratoire scientifique en Polynésie française, et pour une mission sur les récifs coralliens profonds, une quête visant à étudier ces coraux qui vivent profondément. On en a trouvé, c'est un record du monde, jusqu'à 172 mètres de profondeur, et tester, quantifier, mesurer certains paramètres qui peuvent nous renseigner sur leur vie, sur leur survie, sur la résilience de ces récifs dans un contexte de réchauffement climatique et de pression anthropique de manière plus générale.
Comment tu te sens à 172 mètres de profondeur? Qu'est-ce que tu vois? Enfin, toi, ça m'intrigue parce que j'arrive pas à me projeter, quoi. Est-ce que c'est comme si je mets une salle et j'éteins la lumière et après j'ai ma petite lampe torche sur le front? C'est quoi la sensation de quelqu'un qui est à 172 mètres?
Ça peut être un peu ça. Non, pour situer, alors déjà on n'est pas en pleine eau, on n'est pas non plus posé sur un fond, on est le long d'un tombant. Donc un tombant, c'est, on va dire, une falaise verticale qui part de la surface. Nous, on avait une pente oblique raide jusqu'à à peu près 100 mètres, et à partir de 100, 120 mètres, ça descendait quasiment en verticalité. Et donc on est adossé à cette muraille dans une eau qui est très claire. On voit très loin, mais aussi très sombre. Quand on regarde vers le bas, c'est noir, c'est le noir des abysses. On distingue certainement la zone des 200 mètres. Et puis, quand on regarde vers le haut, c'est un dégradé de bleu de plus en plus clair. On voit une zone vaguement plus claire du côté de la surface, là où il y a le soleil, éventuellement. On est dans une atmosphère... on est sur une autre planète. Littéralement, on est dans un autre monde, c'est vrai, c'est un monde où on va pas souvent, qui nécessite un certain engagement, beaucoup de technicité, et donc les sensations qu'on va éprouver sont vraiment celles, j'ai envie de dire de l'exploration spatiale, bon je suis jamais dans l'espace, mais on a envie de se croire un peu, on se croit sur une autre planète, ça c'est sûr, voilà. Et on est très concentré, parce que c'est très technique. Il y a un engagement, c'est des choses qu'on peut faire avec l'entraînement, la rigueur, la répétition, mais c'est des choses qui nécessitent une très forte mobilisation de soi-même et de son équipe, mais qui peuvent être réalisées sous ces conditions-là, en toute sécurité.
Eh bien, ça doit être quelque chose. Tu mets combien de temps à descendre à 172 mètres et remonter?
Là, on a dû mettre 8-10 minutes, un truc comme ça, il me semble. Hein. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est à peu près cette ordre de grandeur-là.
En 10 minutes, tu es déjà à 172 mètres?
Ouais, on se dépêche. Hein. En fait, la descente, elle est directe. Assez rapide. On traîne pas. Donc, on arrive en quelques minutes, effectivement, à cette profondeur. Là, on y reste à peu près 5 minutes pour faire le travail qu'on a à faire. Au demeurant, c'était prélever des échantillons de coraux et les photographier dans leur milieu avant de les prélever. Et ensuite, on remonte. Et la remontée, on va collecter d'autres coraux encore. Et puis, on arrive dans la zone des paliers qui vont commencer très profond. Hein, on ralentit à partir de 80 mètres et on commence à avoir plusieurs minutes de paliers dans la zone des 50 mètres à peu près. Et on est resté combien de temps? 4h30 sous l'eau, je crois, il me semble de mémoire.
4h30?
Ouais, mais c'est pour la plongée professionnelle technique qui utilise un peu du matériel qui n'est pas le commun de tous les plongeurs, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas des scaphandres ouverts qui font des bulles, on utilise des recycleurs de plongée, on appelle ça, qui vont, comme leur nom l'indique, qui vont... Allô, allô?
C'est bon. Tu disais, vous allez utiliser, excuse-moi. Ouais. Des scaphandres?
Ouais, on utilise des scaphandres qu'on appelle des recycleurs, qui recyclent les gaz, qui donnent une autonomie considérable aux plongeurs, et puis un atout aussi en termes de sécurité. Avec ces équipements, plonger 3 heures, 4 heures, c'est commun, en fait. C'était quasiment quotidien sur des programmes de plongée profonde.
Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'ils en pensent, vos proches, quand ils entendent ces montants-là? Ça m'intrigue. Je sais pas si t'as des enfants, peut-être, Guylain?
Ouais, j'ai deux gamins, Robin, qui a 8 ans, et puis Tom, qui a 4 ans et demi. Bah, nous, nos enfants, ils sont nés le premier, juste après la première expédition, enfin 2 ans plus tard. Et puis, c'est leur vie, en fait, hein, puisque Under the Pole, depuis l'origine, avec Emmanuel, c'est d'abord un choix de vie et un choix familial. On fait ces missions en famille. Hein, on a un chien aussi, Kayak. Alors, à l'origine, Kayak, c'est un husky. Hein, et il était avec nous sur la première expédition pour nous prévenir des ours. On voulait avoir un chien polaire, voire deux, sur la banquise pour la sécurité, parce que c'est une alarme supplémentaire en cas de présence d'un ours polaire. Bon, bah, finalement, plutôt que d'en louer un sur place dans le Grand Nord, on a décidé d'avoir notre propre chien, et donc on a pris un husky, parce que sinon on savait qu'on aurait le cœur fendu au moment de lui dire au revoir, c'était impossible, en fait, c'était inimaginable. Voilà, et Kayak nous suit depuis toujours. Les enfants, c'est leur vie. C'est l'école à bord, c'est l'équipe, c'est la famille, hein. C'est les tatas, c'est les tontons, c'est les grands frères, c'est les grandes sœurs. Enfin, je pense que cette dimension familiale, elle fait clairement partie de l'ADN d'Under the Pole aujourd'hui et depuis toujours. Elle est bénéfique au projet, elle est bénéfique à tous, parce qu'en fait, c'est un peu ça qui va caractériser aussi. Nos projets, notre action. L'être humain a vraiment une place centrale dans l'ensemble des projets qu'on fait. C'est quelque chose qu'on prend en compte dans l'écriture même des projets. Comment on va travailler ensemble, comment on va travailler avec l'équipe, et on place les relations humaines au sein de l'équipe au premier plan. Et certainement, c'est lié à notre volonté de faire tout ça en famille depuis le début, et puis dans les fêtes, cette dimension familiale, elle diffuse, hein, auprès de tout le monde, c'est une certitude. Et puis les gamins, ils amènent leur touche d'originalité. Les enfants, c'est la vie. Hein. Voilà. Et donc avoir des enfants dans une équipe, ça apporte beaucoup de richesse, même si ça va à l'encontre de l'image de la société, je parle de société du travail, qu'on imagine, il n'y a pas d'enfants au travail. Et peut-être que s'il y en avait, ce serait une richesse.
Ouais, c'est un point à noter. Guylain, ça fait bientôt une heure qu'on discute, c'est passé assez vite. J'ai trois questions avant qu'on se quitte. La première, c'est si tu devais t'adresser à un jeune qui a envie de enfin en tout cas plus jeune que toi, qui a envie de lancer son expédition, c'est quoi selon toi les étapes que tu lui conseilles de faire?
D'abord, la première chose, c'est que tout est possible, rien n'est impossible, et qu'il ne faut pas avoir peur de travailler pour réaliser ses rêves, quels que soient ses rêves, que ce soit un projet d'études, un projet professionnel, l'envie de participer à des projets existants parce qui nous font rêver ou parce que on est en adéquation avec les valeurs qu'elles vont porter, tout est possible. Après, j'encourage tout un chacun à faire preuve de responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner du sens aussi à ses rêves. Il y a des rêves qui peuvent être très égoïstes, très personnels, et puis il y en a d'autres qui peuvent aussi bénéficier à tout un chacun. Et peut-être que le bon équilibre, c'est d'arriver à concilier les deux. C'est important de se faire plaisir, c'est important de faire les choses pour soi, c'est important de rêver, mais c'est encore mieux, c'est encore plus beau et c'est encore plus grand quand l'énergie de sa motivation personnelle va se mettre au service de quelque chose de plus grand, de plus général. Voilà. Toujours garder ça en vue, et évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, faire preuve de responsabilité environnementale, c'est même plus une question, c'est une obligation.
Tu te sens défenseur de cette cause du réchauffement climatique? Je pense que tu es un des premiers à l'avoir vu, notamment sur le pôle Nord.
Bien sûr qu'on en est défenseur, bien sûr qu'on essaie de faire preuve de passion pour le raconter avec notre regard, avec notre témoignage. C'est quelque chose qu'on a, nous, vu évoluer dans le temps, depuis qu'on fait des missions en Arctique. L'expédition Under the Pole 1 qu'on a fait, on ne pourrait plus la faire aujourd'hui, la banquise est trop fragile. Moi, depuis que je vais au Groenland, ça fait 8 ans maintenant, le milieu a complètement évolué dans la société, par exemple avec les chiens de traîneau qui sont de moins en moins nombreux, mais considérablement de moins en moins nombreux. Voilà. Et ça, c'est l'impact du réchauffement climatique, pas seulement, mais très très largement. Et donc, il y a cette expérience de terrain, ce témoignage, je pense, qui a sa valeur, et puis qui s'appuie aussi sur celle des scientifiques qu'on côtoie. Et c'est important de toujours le rappeler, toujours le dire. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer, on en a tous conscience, et il faut passer à l'action. Et c'est très simple, il y a des choses qu'on peut faire au niveau individuel, il y a des choses qu'on peut faire autour de soi, avec d'autres. Il y a une mobilisation forte, je pense, de plus en plus forte, en tout cas de la société civile et des jeunes. Et il faut aller dans ce sens-là, dans cette énergie-là. C'est absolument essentiel pour retrouver notre équilibre individuel et puis avec notre environnement et puis pour nos gamins. Voilà. Et moi j'en ai deux aujourd'hui et clairement dans mon engagement c'est à eux que je pense pour les projets qu'on fera demain.
Comment on fait pour vous suivre du coup là? C'est quoi les endroits, zones, réseaux sociaux peut-être, livres, bouquins que vous avez pu avoir qu'on peut avoir pour vous suivre?
Alors, Under the Pole, on a un site internet, underthepole.com, on a des réseaux sociaux, Under the Pole, hein, on est sur les principaux réseaux sociaux, et puis on a des films, on est présent en fait régulièrement hein, dans les médias, on essaie de faire des festivals de films à droite à gauche, donc il y a moyen de se voir, de se rencontrer sur en particulier les festivals d'aventure, les festivals d'exploration, les festivals d'environnement. Et on relaie l'information à ce sujet sur nos réseaux sociaux, Facebook en particulier.
Parfait. Dernière question, Guylain. Si on avait la technologie pour te faire rencontrer Guylain qui a tout juste 24 ans, qui n'a pas encore commencé son accompagnement de Jean-Louis Etienne, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ouais, je lui dirais ce que j'ai dit. Tout est possible, rien n'est impossible. Il ne faut pas avoir peur de ses rêves ou de ses ambitions. Il faut foncer et se donner les moyens ensuite. Et ça veut dire travailler parfois. faut être réaliste aussi. Il y a parfois des voies qui sont pas forcément les bonnes pour soi. Mais si c'est pas une voie unique, en fait, il y en a une, forcément une autre parallèle qui va permettre d'assouvir ce même rêve. On n'est pas tous astronautes, mais il y a beaucoup de métiers dans l'étude, l'observation de l'espace, hein, beaucoup de métiers, voilà. Et donc tout est possible, et simplement faut trouver le bon chemin. Et le bon chemin, je pense qu'on le rencontre, on le trouve dans les rencontres qu'on va faire avec les gens. Voilà. Et moi, il y a deux rencontres qui ont été déterminantes pour moi. La première, ça a été avec Emmanuel, qui est devenue ma femme, qui m'a présenté Jean-Louis Etienne quelques semaines plus tard. Et c'est tout ça qui certainement fait que j'en suis là aujourd'hui.
Canon. Merci, hein, Guilain, pour ce temps avec moi. J'étais ravi de faire cet échange et cette rencontre, du coup, également. On a hâte de voir la suite du programme avec la prochaine Under the Pole 4. Et on vous souhaite d'y arriver avec tout ce qu'il faut.
Ah, je te remercie. Merci à toi pour ce temps et cette prise de parole. Et puis, voilà, bon vent à chacun des auditeurs. Bon vent.
À bientôt.
Au revoir.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.